Avec toi présent au milieu de nous, Seigneur Jésus, nous disons à Dieu, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ce matin, le frère Henri nous a parlé des attitudes spirituelles que nous sommes invités à faire nôtres pour suivre notre formation de l'IGC. Je les reformulerai ainsi. Être disciple et vivre de charité pour l'Église, pour la communauté. Communauté, ces deux attitudes spirituelles, être disciple et vivre de charité, nous situent, et à plusieurs moments de son propos, nous l'avons bien saisi, dans une communauté. La communauté étudiante que nous formons, les communautés de vie qui sont les nôtres, la communauté ecclésiale, bien sûr. Alors, en me branchant sur ce propos cet après-midi, je voudrais m'approcher avec vous de l'expérience de Sainte Thérèse d'Avila pour repérer comment elle, qui est la fondatrice de notre famille religieuse, la première dépositaire de notre charisme, elle a elle-même vécu de ces deux attitudes. Elle a elle-même été disciple, elle a elle-même vécu de charité théologale pour que sa vie soit féconde pour l'Église et pour le monde. En d'autres mots, elle a elle-même reçu de la communauté, des communautés dans lesquelles elle était insérée. Et elle a transmis le charisme que le Seigneur lui donnait aux petites et grandes communautés avec lesquelles elle était en lien, avec l'Église entière. Deux expressions illustrent particulièrement ce fait. Une expression que Thérèse prononce sur son lit de mort. Une autre expression qui est inscrite sur le piédestal de sa statue à Saint-Pierre de Rome. La première expression à laquelle je pense, vous l'avez certainement en mémoire pour beaucoup d'entre vous, Thérèse la proclame, pour ainsi dire, sur son lit de mort au Carmel d'Alba de Tormes au début du mois d'octobre 1582. « Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir faite fille de l'Église ». Je suis fille de l'Église. La seconde expression à laquelle je pense, inscrite sur le piédestal de la statue sculptée par Filippo della Valle au XVIIIe siècle et qui se trouve à l'entrée de la nef de Saint-Pierre de Rome, c'est Thérèse, Sancta Thérésia, Mater Spiritualium, mère des spirituels. Cette expression dont le frère Henri nous disait ce matin que le saint pape Paul VI l'a reprise au moment de la proclamation du doctorat de Thérèse en 1970. Mère des spirituels. Vous entendez bien, avec la conjonction de ces deux expressions, fille de l'Église, mère des spirituels, que Thérèse est tout à la fois fille et mère. Elle reçoit, fille de l'Église, et elle donne, elle communique, elle enfante, elle est mère, fille de l'Église, mère des spirituels. De fait, un charisme authentique, je crois, dans l'Église, situe toujours le fondateur, la fondatrice, à cette interface, dépositaire d'un don de Dieu, d'un don de l'Esprit-Saint pour le bien d'un groupe, pour le bien de l'Église, est donc appelé à transmettre. Et ce charisme, il est reçu dans l'Église. Nous verrons dans un instant comment Thérèse elle-même, toute fondatrice que nous la considérons, ne s'est jamais posée comme commencement absolu de la famille religieuse qu'elle initiait. Un charisme authentique, c'est un don de l'Esprit Saint pour le bien d'un groupe, pour le bien de l'Église, et donc les fondateurs transmettent. Et ce charisme authentique, il est reçu au sein de l'Église, dans un lieu où les fondateurs eux-mêmes reçoivent. Toute proportion gardée, vous allez voir pourquoi je dis toute proportion gardée, cela me faisait penser à une parole qui m'avait été adressée par une communauté amie de moniales carmélites au moment de mon ordination sacerdotale. Les sœurs m'écrivaient avec l'assurance de leur prière et de leur amitié, « Nous rendons grâce avec toi, avec tes amis, avec tes parents, avec ta communauté par laquelle tu as reçu tout ce que Dieu t'a donné. » Ta communauté par laquelle tu as reçu tout ce que Dieu t'a donné. Eh oui, bien sûr, nous rencontrons personnellement le Seigneur et nous le rencontrons toujours dans l'Église, dans les communautés qui sont les nôtres. C'est vraiment moi qui reçois le don de Dieu, et ce don de Dieu, je le reçois toujours, d'une manière ou d'une autre, par une médiation ecclésiale, la communauté par laquelle tu as reçu tout ce que Dieu t'a donné. Alors vous voyez, fille de l'Église, mère des spirituels, ces deux expressions donnent le petit plan de ma petite intervention de cet après-midi. Dans un premier temps, je voudrais parler de Thérèse, fille de l'Église. Et dans un second temps, je parlerai de Thérèse, mère des spirituels. Thérèse recevant de la communauté, Thérèse donnant à la communauté. Entrons dans la première partie. Thérèse, fille de l'Église, Thérèse qui reçoit de la communauté. Au début du mois de septembre, avec nos frères en formation de nos deux provinces carmélitaines de France, nous étions en pèlerinage en Castille, et notamment nous avons eu la grâce de prier dans la chapelle qui a été bâtie à Avila sur le lieu de la naissance de Thérèse. Et dans cette chapelle natale, il y a quatre tableaux qui, pour moi, illustrent magnifiquement comment Thérèse est fille de l'Église. Ce sont quatre tableaux qui ont une composition assez similaire, où il y a toujours, dans la partie supérieure du tableau, sur une nuée, le Christ s'adressant à Thérèse. Et dans la partie inférieure du tableau, des membres d'un même ordre religieux. Pour chaque tableau, un ordre religieux. Sur un tableau, les religieux de la partie inférieure, la partie terrestre, sont les franciscains, sur un autre, les jésuites, sur un autre, les dominicains, et sur un autre, les carmes. Et à chaque fois, le Christ adresse à Thérèse une parole où il lui dit qu'il lui a donné une grâce particulière par le moyen de ces religieux-là. Sur le tableau qui met en scène Thérèse avec les franciscains, le Christ dit à Thérèse « Je t'ai donné l'esprit d'humilité, la pauvreté franciscaine. » Sur le tableau mettant en scène Thérèse et les dominicains, le Christ dit à la Sainte Mère « Je t'ai donné l'esprit de sagesse, notamment grâce à ces conseillers théologiens qui t'ont soutenu et éclairé. » Sur le tableau qui montre Thérèse avec les jésuites, la parole du Christ est « Je t'ai donné l'esprit de religion ». Alors, dans un sens du mot un petit peu vieilli pour nous, cet esprit de religion, c'est l'esprit de force qui est donné aux fondateurs d'ordre religieux. Et puis enfin, lorsque Thérèse est représentée avec des carmes, la grâce que le Christ affirme lui avoir donnée, c'est l'esprit de dévotion, l'esprit de prière, d'intimité avec Dieu. Vous voyez, ces quatre tableaux illustrent bien combien Thérèse a été fille de l'Église, c'est-à-dire qu'elle a reçu de différents courants spirituels de son époque, qu'elle a reçu du meilleur que l'Église pouvait donner à son époque. précise juste au passage, pour qu'on ne croit pas qu'on vit sur un petit nuage ou dans un monde de bisounours, que Thérèse a aussi souffert de ce qu'il y avait de mauvais et qui pouvait être commis par des membres de l'Église à son époque. Et elle a bénéficié du meilleur. En buvant à toutes les sources, les dominicains, si je détaille un petit peu plus ce que Thérèse a reçu de chacun de ses ordres religieux, les dominicains ont été les théologiens sûrs et qualifiés sur lesquels elle pouvait s'appuyer. Non seulement les théologiens qui vivaient dans la même ville qu'elle et qu'elle pouvait donc consulter, mais aussi des théologiens de premier plan, comme Domingo Bagnès ou d'autres encore. Vous savez, des fois, les personnages sont simplement des personnes qui entrent à un moment ou à un autre sur la scène de la biographie des figures que nous côtoyons. Il en est ainsi pour Thérèse. Certains de ses collaborateurs sont passés à la postérité pour être des amis de Thérèse. Des personnes comme Domingo Bagnès, il n'en est pas ainsi. C'est un théologien de premier plan de l'Espagne de son temps. Les théologiens sûrs, donc. Les franciscains, Thérèse a été en lien en chair et en os, enfin plus en os qu'en chair, avec un grand spirituel de son temps, Saint-Pierre d'Alcantara. Saint-Pierre d'Alcantara, qui est un spirituel, un réformateur de l'ordre franciscain, qui a été un conseiller de Thérèse. Elle a aussi, comme beaucoup de fidèles de son époque, grandement bénéficié des livres de spiritualité franciscaine qui étaient largement diffusés, tels que ceux de Francisco de Osuna, O-S-U-N-A. Francisco de Osuna, c'est l'un des grands spirituels, et bien sûr, effectivement, j'ai entendu dans la salle le troisième abécédaire, exactement. Le troisième abécédaire, si vous voulez, c'est l'un des best-sellers de la spiritualité à l'époque de Thérèse. C'est comme si Doña Teresa allait se promener à la Procure à Paris et qu'elle voyait sur la table de la bibliothèque chrétienne idéale de tous les temps le troisième abécédaire de Francisco de Osuna. Elle se dit ouais, « il faut que je découvre ça ». Et non seulement elle a lu ce livre de spiritualité qui était un best-seller de l'époque, mais elle a découvert l'oraison de recueillement, ce qui est devenu la prière de prédilection qu'elle a mise en œuvre et qu'elle a transmise à sa famille dans ce livre du troisième abécédaire de Francisco de Osuna. Au passage, j'y pense maintenant en vous en parlant, ce troisième abécédaire de Francisco de Osuna, en fait, ce n'est pas en passant à la librairie du coin qu'elle l'a découvert, c'est en faisant un séjour chez un laïc, alors qu'elle-même était déjà moniale, son oncle Pedro. Son oncle Pierre, l'un des frères de son papa. Vous voyez, Doña Teresa, je fais une petite parenthèse qui n'en est pas une pour raconter cet épisode qui, je crois, est extrêmement intéressant et qui nous montre aussi vraiment Thérèse, fille de l'Église. Doña Teresa est jeune moniale au Carmel de l'Incarnation. Pour différentes raisons, elle est soumise à des tensions physiques et psychiques, et spirituelles aussi, très fortes, qui font qu'elle a besoin de faire un séjour hors de sa communauté pour aller se refaire une santé. Et on lui a indiqué une guérisseuse à Bécédas, qui est un village à peu près à l'autre extrémité de la province d'Avila. Et en chemin, elle s'arrête à Ortigosa, qui est un petit patelin, où vit son oncle Pierre. Elle passe un petit peu de temps là. Et cet oncle Pierre, c'est un laïc profondément spirituel qui lui fait découvrir ce fameux best-seller de la spiritualité, le troisième abécédaire. Vous voyez, Thérèse se nourrit à cette veine de la spiritualité franciscaine, elle, la carmélite, et elle, la moniale, découvre cet ouvrage grâce à un laïc. Oui, décidément, Thérèse, fille de l'Église. Et les jésuites ? Les jésuites. Je crois que dans le chapitre 23 du livre de la vie, qui est un petit peu son autobiographie spirituelle, Thérèse fait le plus bel éloge que l'on peut adresser à un accompagnateur spirituel. Nous sommes à l'époque de sa conversion, dans les années 1555-1560. Thérèse vit un grand approfondissement de sa vie spirituelle. Le Seigneur lui donne de grandes grâces qui, par bien des aspects, la submergent, la dépassent, la débordent. Et elle ne sait pas comment rendre compte de cela. Alors elle s'adresse à un pieux laïc, Francisco de Salcedo, un prêtre diocésain, Gaspard Dassa. Et comme elle ne sait pas comment parler de ce qui lui arrive, elle prend l'un de ses livres de spiritualité dont elle est friande et elle coche dans la marge en disant « Vous voyez, ce qui m'arrive, c'est ça. » Et le verdict des deux premiers conseillers est clair. « Doña Teresa, vous n'avez pas une vie assez vertueuse pour recevoir d'aussi grandes grâces. Il est clair que vous êtes le jouet de votre imagination ou du démon. » On est mal barré. Heureusement, Thérèse a une amie, Doña Guiomar de Ulloa, qui vit à Avila, à deux pas de la communauté des Jésuites. Et elle lui dit, « Doña Teresa, ça serait bien que vous veniez parler de ce qui vous arrive à un père jésuite. » Et elle rencontre un tout jeune jésuite, Diego de Cetina, Cetina, C-E-T-I-N-A, dont elle dit, dans le chapitre 23 du livre de la vie, comme il comprenait ce langage de l'esprit, il comprit ce qui se passait en moi. Un accompagnateur qui ne juge pas à partir de ces petites catégories, mais qui est à l'écoute de l'œuvre de l'Esprit-Saint en la personne qui l'accompagne. Comme il comprenait ce langage de l'esprit, il comprit ce qui se passait en moi. Et Diego de Cetina reconnaît l'œuvre de l'esprit en Thérèse et la lance à flot sur ce nouveau chemin de l'offrande d'elle-même, toujours plus profonde, à l'esprit du Seigneur. Les jésuites, je prends cet exemple emblématique de Diego de Cetina, ont vraiment été les accompagnateurs spirituels qualifiés que Thérèse a rencontrés. Étant eux-mêmes de grands spirituels, ils ont été capables de discerner l'œuvre de l'esprit en Thérèse. Et puis les carmes. Alors, les carmes, à vrai dire, c'est de la tradition du Carmel que Thérèse reçoit. Elle entre au monastère de l'Incarnation, elle devient donc carmélite. Et là, formée par ses sœurs et ses mères, elle est instruite dans l'esprit de la règle du Carmel qui avait été donnée à nos premiers frères sur le mont Carmel au début du XIIIe siècle. Elle boit la source de l'institution des premiers moines qui, pendant des siècles, a même été considérée comme, d'une certaine manière, la règle primitive du Carmel. L'institution des premiers moines, c'est un ouvrage de la fin du XIVe siècle dû à un carme catalan, Philippe Ribot, R-I-B-O-T, R-I-B-O-T, qui recueille tout un ensemble de traditions spirituelles sur le Carmel. Et c'est grâce à la règle, grâce à l'institution des premiers moines, grâce à l'enseignement et à la vie de ses sœurs et de ses mères, que Thérèse s'imbibe elle-même de la tradition contemplative du Carmel. Vous savez, dans le château intérieur, dans le premier chapitre des cinquièmes demeures, elle affirme « Nous toutes, elle dit toutes parce qu'elle parle à ses filles carmélites, nous toutes qui portons ce saint habit du Carmel, nous sommes appelées à l'oraison et à la contemplation. C'est là notre première institution. C'est là la perle précieuse que nos pères d'autrefois cherchaient. » Et lorsqu'elle parle de la première institution des pères d'autrefois, elle pense à l'époque de la première fondation de l'ordre au Mont Carmel au XIIIe siècle. Elle pense à cette spiritualité de la règle du Carmel et de l'institution des premiers moines. Elle pense à la spiritualité biblique, profondément fondée sur le prophète Élie et la Vierge Marie de la tradition carmélitaine. Et alors qu'elle est à la veille de fonder son nouveau Carmel, en 1562, elle a cette conscience vive d'être branchée, pour reprendre une expression de nos constitutions d'aujourd'hui, sur l'ancien tronc du Carmel. L'ordre nouveau, la famille nouvelle qu'elle va fonder est profondément branchée sur ce tronc ancien du Carmel. Thérèse, donc, fille de l'Église, grâce à ces courants spirituels auxquels elle boit. Alors, d'une certaine manière, en parlant de ces quatre courants spirituels, je vois peut-être au plus large, mais pour poursuivre ce premier point, cette première partie consacrée à Thérèse, fille de l'Église, je voudrais aussi donner deux exemples qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui sont très significatifs, de petits réseaux d'églises dans lesquels Thérèse était insérée. Le premier épisode, car ce sont des épisodes plus que des anecdotes, le premier épisode, c'est celui dont Thérèse parle dans le livre de la vie, au chapitre 16, paragraphe 7. Livre de la vie, chapitre 16, paragraphe 7. On est toujours autour des années 1555-1560, et Thérèse nous parle d'un groupe d'amis dont elle fait partie. Elle a cette expression « Nous cinq qui nous aimons dans le Seigneur, je voudrais que nous nous réunissions souvent pour nous entraider, pour nous aider mutuellement à grandir dans les chemins du Seigneur. » Livre de la vie, chapitre 16, paragraphe 7. « Nous cinq qui nous aimons dans le Seigneur. » Alors le problème, c'est qu'elle ne dit pas qui sont les cinq. Mais heureusement, nous avons d'excellents historiens et biographes qui se sont attelés à la question. Et les spécialistes sont à peu près d'accord pour dire que vraisemblablement, les cinq dont il est question sont Thérèse elle-même, une de ses amies, Guiomar de Ulloa, Madame Ulloa, U-2-L-O-A. Francisco de Salcedo, Monsieur Salcedo, S-A-L-C-E-D-O, Garcia de Toledo, le père frère Garcia, G-A-R-C-I-A, et Gaspar d'Assa, l'abbé d'Assa, D-A-Z-A. J'ai volontairement traduit un petit peu leur titre, entre guillemets, avec des mots d'aujourd'hui, pour souligner que Guiomar de Ulloa, Madame Ulloa, c'est une femme laïque, mariée, veuve, maman d'une jeune fille à cette époque. Le père frère Garcia de Toledo, c'est un religieux prêtre dominicain. L'abbé d'Assa, le père Gaspar d'Assa, c'est un prêtre du diocèse d'Avila. Francisco de Salcedo, monsieur Salcedo, c'est un homme laïque. Et Doña Teresa, c'est une moniale carmélite. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, avec mes grosses sandales. Quelle diversité d'état de vie. Il ne serait pas possible, dans un groupe de 5 personnes, d'avoir une diversité d'état de vie plus grande. Il y a une femme moniale, une femme laïque, un homme laïque, un homme prêtre diocésain, un homme religieux. Eh bien, vous voyez, Thérèse, fille de l'Église, c'est aussi cette femme insérée à un moment crucial de sa maturation spirituelle dans un groupe où il y a une très grande diversité. Non seulement elle boit à la source de tous les courants spirituels de son époque, mais elle profite aussi de la richesse de tous les états de vie avec lesquels elle est en contact. On pourrait reprendre dans ce paragraphe 7 du chapitre 16 du livre de la vie ce que Thérèse dit du fonctionnement spirituel de ce groupe qui, je crois, est particulièrement instructif de sa manière de se situer dans l'Église. Et évidemment, ce groupe-là n'est pas une petite secte des purs, ni un groupe parallèle. Chacune des membres appartient bien à sa communauté et est en lien, fait du bien et reçoit du bien de personnes vivant d'autres états de vie. Deuxième épisode que je veux mentionner, Alors là, je suis dans le chapitre 32 du livre de la vie, au paragraphe 10. Chapitre 32, paragraphe 10 du livre de la vie, vraisemblablement on est en 1560. Thérèse est toujours moniale au Carmel de l'Incarnation. Et comme à l'époque, dans le monastère où Thérèse vivait, à la fois des pensionnaires laïcs sont accueillis au monastère pour y faire leur éducation, et puis la clôture n'y est pas vécue de manière tout à fait stricte, Thérèse se trouve dans sa cellule, qui est assez spacieuse, avec un groupe d'amis, d'autres moniales du monastère de l'Incarnation, quelques pensionnaires laïcs du monastère, dont l'une de ses nièces, Maria de Ocampo, O-C-A-M-P-O, et puis peut-être aussi d'autres amis de l'extérieur. Alors vous voyez, ces femmes, moniales, pensionnaires, laïques de l'extérieur, sont réunies en une espèce de petit cénacle spirituel dans la cellule de Thérèse. Et on est à l'époque où Thérèse, approfondissant sa vie spirituelle, entend cet appel du Seigneur à peut-être vivre quelque chose d'autre, quelque chose de neuf. Et voilà ce qui se passe, selon ce qu'elle nous raconte. Livre de la vie, chapitre 32, paragraphe 10. Un jour que nous nous trouvions plusieurs ensemble, l'une d'entre nous demanda pourquoi nous ne serions pas religieuses à la manière des déchaussées. Les déchaussées auxquelles il est fait allusion, ce sont des franciscaines déchaussées, réformées par Saint-Pierre d'Alcantara, et celle qui parle, c'est la fameuse nièce de Thérèse, Maria de Ocampo. L'une d'entre nous demanda pourquoi nous ne serions pas religieuses à la manière des déchaussées. Nous pourrions bien, disait-elle, établir un monastère. Une telle proposition répondait parfaitement à mes désirs. J'en parlais à cette dame veuve, Madame Ulloa, ma compagne, qui partageait mes vues. Elle s'occupa aussitôt d'assigner un revenu au futur couvent. Et Thérèse commence à raconter les prémices de la fondation de ce qui sera son premier carmel rénové, le premier carmel des chaussées, Saint-Joseph d'Avila. Pourquoi est-ce que je vais souligner cet épisode? Eh bien parce que le moment où jaillit, où se cristallise de manière explicite pour la première fois le projet de la fondation du nouveau Carmel dont Thérèse sera la fondatrice, ce moment, il se déroule au sein d'une discussion amicale dans un groupe dont Thérèse fait partie au même niveau que les autres. Vous me direz, un groupe où on a un catalyseur comme Thérèse, ça doit aider. D'accord. Mais c'est quand même un groupe d'amis. Je dirais un groupe, pour prendre cette expression peut-être un peu maladroite, assez horizontal. Et ce n'est même pas Thérèse elle-même qui, la première, formule l'idée de fonder un nouveau Carmel. C'est une autre. Alors bien sûr, cela, comme elle nous le dit elle-même, correspond à ses propres désirs. Mais vous voyez, Thérèse, future fondatrice, elle est insérée dans un groupe. Et je crois que là encore, nous la voyons fille de l'Église, nous voyons de manière très éloquente sa manière de se situer dans l'Église. Elle est une parmi d'autres dans ce groupe. Que ce soit donc des quatre grands courants spirituels, franciscains, dominicains, jésuites, carmes, que ce soit dans ce groupe de cinq amis, nous qui nous aimons dans le Seigneur, que ce soit dans ce groupe d'amis moniales et laïques, dans ce cénacle spirituel de l'Incarnation, nous voyons comment Thérèse se situe et reçoit la grâce d'être effectivement fille de l'Église et combien elle reçoit toujours de la communauté. Les mini-communautés des groupes dont elle fait partie, ces groupes amicaux, la communauté de moniales à laquelle elle appartient, la communauté ecclésiale, au sein de laquelle elle boit à différents courants spirituels. Thérèse, fille de l'Église, qui reçoit de la communauté. Et Thérèse, mère des spirituels, va être celle qui est dépositaire d'un charisme reçu de l'Esprit-Saint et qui va le transmettre à d'autres pour le bien des groupes dont elle fait partie, de la famille qu'elle va fonder et de l'Église entière. C'est ce dont je voudrais parler maintenant dans ma seconde partie. Thérèse, mère des spirituels, Thérèse qui transmet pour le bien de la communauté. Le 24 août 1562 est une date très importante au Carmel. C'est le jour de la fondation du Carmel de Saint-Joseph d'Avila, le premier monastère de carmélites déchaussés. Le premier Carmel rénové, fondé par Thérèse. Comment est réalisée la fondation ? Eh bien, Thérèse, grâce à l'aide de différents amis, avait réussi à mettre en place, à aménager une maison qui servirait de monastère. Et puis, le matin du 24 août, elle donne l'habit à quatre femmes qui seront les quatre premières carmélites déchaussées, Ursula de los Santos, Ursule de tous les saints, Marie de Saint-Joseph, Marie de la Croix et Antoinette de l'Esprit-Saint. Ursule de tous les saints, Marie de Saint-Joseph, Marie de la Croix et Antoinette de l'Esprit-Saint reçoivent l'habit de carmélite déchaussée au cours de la première messe célébrée au monastère et commence ainsi la vie de l'ordre. Et Thérèse ? Eh bien, Thérèse, le jour même, elle est rappelée par sa supérieure, la prieure du monastère de l'Incarnation, et elle doit laisser les quatre novices. Au moment même où commence à jaillir de manière concrète dans l'Église la mise en œuvre de ce nouveau charisme du Carmel déchaussé, la fondatrice se retire, temporairement certes. Et vous voyez ce que ça dit, je crois, de l'attitude spirituelle de Thérèse. Vous me direz, elle est un petit peu contrainte par les événements, mais quand même. Je crois que ça dit profondément quelque chose de l'attitude spirituelle de Thérèse et de la confiance qu'elle fait à ces quatre femmes, plus ou moins jeunes. Elle laisse entre les mains de ces quatre novices le charisme du Carmel déchaussé. Et elle obéit à ses supérieurs. Elle retourne pour quelques mois au monastère de l'Incarnation avant d'être autorisée à les rejoindre. Quelques mois après, donc, Thérèse rejoint ses quatre premières carmélites déchaussées et mène avec elle la vie de cette nouvelle communauté dont la caractéristique est que l'oraison, l'expérience spirituelle de rencontre du Christ présent au-dedans de nous, est la colonne vertébrale de cette nouvelle communauté. L'expérience spirituelle de l'oraison est l'expérience fondamentale qui donne forme, qui informe le style de vie de la nouvelle communauté. L'oraison dans ce nouveau Carmel, ce n'est pas simplement deux temps de prière deux fois par jour. C'est très important que ça le soit, et c'est une nouveauté dans la nouvelle fondation. Une heure le matin, une heure le soir, on s'adonne ensemble à cet exercice spirituel de l'oraison mentale, du recueillement intérieur. Et cette expérience donne forme à tout le style de vie de la nouvelle communauté. Le style de vie de la nouvelle communauté va avoir pour cadre des moyens qui permettent aux moniales de faire de la vie d'oraison le cœur de leur existence entière. Les moyens que Thérèse choisit pour cela vont être d'abord le petit nombre de moniales pour favoriser la fraternité évangélique entre les sœurs, une pauvreté évangélique librement assumée pour manifester la confiance en la providence de Dieu, joint au travail des sœurs, car faire confiance à la providence ne peut jamais être synonyme d'être paresseux, La stricte clôture, comme retrait du monde et comme espace de liberté pour ces moniales, où elles sont libres de vivre le genre de vie qu'elles ont choisi. Et l'orientation apostolique de la nouvelle communauté. Car cela ne suffirait pas d'être réunis en une fraternité évangélique pour vivre de la grâce de l'oraison, si l'on n'avait pas la conscience vive d'être réunis pour l'Église. Le cœur de la nouvelle fondation pour Thérèse, c'est cette foi en la fécondité apostolique, dans la fécondité pour l'Église de la vie contemplative. Cette communauté, elle aura une note particulière de simplicité, de fraternité et de joie. Deux petites notes simplement pour illustrer cela. Thérèse instaure dans l'horaire de la nouvelle communauté la récréation. Deux temps de récréation quotidien. Et attention, ce n'est pas parce qu'il y a deux temps de récréation à côté des deux temps d'oraison que la récréation serait simplement une soupape pour souffler un peu dans un rythme de vie quand même assez exigeant. Non. Bien plus profondément, pour Thérèse, la récréation, c'est l'occasion concrète donnée à ses sœurs de vérifier qu'elles vivent bien de l'esprit de l'Évangile. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis tout seul, je n'ai aucune difficulté à me convaincre que je vis de l'Évangile, que j'aime le bon Dieu et mes frères et mes sœurs. En récréation, ça peut être plus difficile. À cause de moi, pas à cause des frères. Hein. Voilà. Les frères qui vivent au bout du monde, mais alors je les aime, sans aucune difficulté. Les frères qui vivent dans la même communauté de moi, suivant les moments, c'est plus ou moins facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec les mots de la première lettre de Saint Jean. Celui qui croit aimer Dieu qu'il ne voit pas, mais qui n'aime pas son frère qu'il voit est un menteur. C'est une excellente question. Souvent, dans la tradition de l'Église, on choisit la vie érémitique. Je fais une petite parenthèse pour ne pas interrompre le fil de notre propos. Généralement, dans la tradition de l'Église, la vie érémitique est mise en œuvre par des personnes qui se sont exercées pendant un assez long temps à la vie communautaire. Mais la question, quand même, vaudrait la peine d'être plus creusée, plus que je ne peux le faire ici. Merci, Frédéric. Si on traduit un petit peu l'adage de la première lettre de Saint Jean en termes thérésiens, celui ou celle qui s'imagine être uni à Dieu dans l'oraison, mais qui ne grandit pas dans la charité concrète avec ses frères et sœurs dans la récréation, a de fortes chances d'être dans l'illusion. La récréation, ça va être ce moment de mise en œuvre de la charité théologale, moment offert à ces moniales, pour lesquelles, effectivement, dans le style de vie qu'elles inaugurent, la dimension de la solitude, du silence est particulièrement importante. Deuxième illustration de ce propos, dans un petit adage, dans une petite phrase que Thérèse écrit dans le chapitre 4 du Chemin de perfection, l'un de ses livres, Le Chemin de perfection, Thérèse y écrit, pour parler de l'amour fraternel entre les sœurs de la nouvelle communauté, ici, toutes doivent s'aimer, toutes doivent se chérir, toutes doivent s'entraider. Et un frère m'a fait remarquer un jour que certainement dans cette phrase, le plus important ne sont pas tant les verbes s'aimer, s'entraider, se chérir. Le plus important, c'est le mot toutes. Toutes. Pas seulement celle avec laquelle j'ai plus d'affinité personnelle. Pas seulement celle qui m'est plus sympathique. Pas seulement celle avec qui, dans un autre genre de vie, j'aurais déjà été ami. Non, toutes. Parce que nous sommes réunis ici au nom du Seigneur et pas au nom de nos affinités personnelles. La communauté thérésienne, elle a cette caractéristique de l'amitié entre toutes les sœurs. Au sein de la communauté, si j'élargis un petit peu le cercle, eh bien, je voudrais souligner que Le charisme que Thérèse reçoit, il va se diffuser en dehors des murs de la clôture du monastère. D'abord, très vite, dès les premières années de sa première fondation, Thérèse n'a de cesse que des frères carmes puissent vivre du même esprit que ces nouvelles moniales carmélites déchaussées. Et elle va tout faire pour que des carmes déchaussées, comme nous les appellerons par la suite, puissent être fondées, pour vivre une fraternité spirituelle avec les carmélites déchaussées, pour être pour elles des frères, des appuis peut-être aussi, des soutiens, des frères vivant du même esprit que les sœurs, pour pouvoir les aider, les soutenir et, plus profondément encore, former une famille avec elles. Comme si Thérèse se disait « Il n'est pas bon que les sœurs soient seules. Fondons des frères pour que nous soyons une famille. » Pour que nous soyons une famille. De même, lorsque Thérèse sera lancée dans l'aventure des fondations, elle tissera entre les différents monastères de Carmélite un réseau très étroit pour que l'amitié dont elle parle dans le chemin de perfection soit non seulement vécue à l'intérieur de chaque Carmel, mais aussi entre les différents Carmels. Et puis, dans l'aventure des fondations, elle sollicitera toujours l'aide de laïcs, hommes, femmes, d'ecclésiastiques, de bienfaiteurs de tout rang social, qui pour beaucoup d'entre eux sont des spirituels et qui, sans être frères carmes ni sœurs carmélites, vont être des laïcs vivant de l'esprit du Carmel rénové, des hommes et des femmes de raison, des hommes et des femmes engagés dans le renouveau de l'Église de leur temps. À travers tout ça, nous voyons que la communauté à laquelle Thérèse offre son charisme, transmet son charisme, c'est non seulement le et les monastères qu'elle fonde, mais une véritable famille au sein de l'Église, famille qui déborde les murs du premier Carmel fondé par elle, famille qui déborde même les frontières institutionnelles de l'ordre du Carmel. Et puis, Thérèse, mère des spirituels, nous la nommons ainsi parce que, grâce aux ouvrages de spiritualité qu'elle nous a transmis, elle est devenue et elle a été reconnue par l'Église une pédagogue de la vie spirituelle. Vous vous souvenez, ce matin, le frère Henri nous disait que c'est en 1970 qu'elle a été déclarée docteur de l'Église. 1970 seulement, pourrait-on dire, oui, parce que à cause d'une interprétation erronée d'un verset de saint Paul, on pensait que les saintes, les femmes, ne pouvaient pas être déclarées docteurs de l'Église. Et saint Paul VI a compris que cela était possible et l'a fait comprendre à toute l'Église. Thérèse a été déclarée docteur de l'Église seulement en 1970, mais dès le XVIIe siècle, Thérèse est représentée dans l'art avec un collier et un bonnet qui sont les attributs traditionnels des docteurs. C'est-à-dire que Thérèse, depuis le XVIIe siècle, est reconnue comme exerçant un magistère spirituel dans l'Église. Et Paul VI lui-même, en 1970, a souligné cela et a déclaré, le 27 septembre 1970, qu'il déclarait Thérèse docteur de l'Église ou que, plus exactement, il la reconnaissait docteur de l'Église. C'est-à-dire qu'il reconnaissait, qu'il entérinait, d'une certaine manière, le fait que, depuis le début du XVIIe siècle, elle exerçait dans la communauté ecclésiale ce magistère doctoral sans en avoir encore le titre. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sans aucun scrupule, au XVIIIe siècle, on a pu inscrire sur le piédestal de sa statue à Saint-Pierre de Rome quand même, Sainte Thérèse, mère des spirituels, ce magistère qu'elle exerçait déjà. Enfin, et c'est ce avec quoi je voudrais terminer, si Thérèse a été dépositaire d'un charisme fécond pour l'Église, c'est aussi parce qu'elle a donné comme mission particulière à sa famille de prier pour l'Église et de reconnaître que l'expérience spirituelle de l'oraison était une expérience qui non seulement conduisait à l'union à Dieu, chacun et chacune, mais était aussi une expérience qui portait du fruit pour l'Église. Et il faut que je corrige immédiatement mon expression, car je viens de dire non seulement l'union à Dieu, mais aussi la fécondité pour l'Église. En fait, ces deux réalités sont profondément unies. Vous savez, comme quand le pape François nous dit « Un chrétien ne devrait jamais se considérer disciple puis missionnaire, mais disciple missionnaire, avec un tiret. » Bien, de la même manière pour Thérèse, on n'est pas uni à Dieu, puis on reçoit la grâce de la fécondité pour l'Église. L'union à Dieu est féconde pour l'Église. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager cet après-midi autour de ces deux titres de Thérèse, fille de l'Église, Thérèse, mère des spirituels. Personnellement, et peut-être aussi dans nos échanges en groupe, faire des liens avec ce que nous désirons, ce que nous espérons vivre pendant notre formation tout au long de l'année, et notamment avec ce dont le frère Henri nous a parlé ce matin sur l'être disciple et sur l'exercice de la charité qui porte du fruit pour l'Église.